des livres plein les oreilles. Et c'est reparti pour un tour à l'émission des livres plein les oreilles. Il me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui beaucoup de livres audio et également un sujet qui me tient à cœur. Mais d'abord, vous parlez de mes invités. Il y aura Gérald Cousineau qu'on retrouve avec grand plaisir. Vous allez peut-être faire connaissance avec Marc Offrand qui nous présente l'association Valentin Huy et son imposante bibliothèque audio à laquelle vous avez droit grâce aux accords de Marrakech. Il va nous expliquer ce que sont exactement ces accords de Marrakech. Et puis nous allons aussi parler en première partie du livre de René Aumirois qui s'appelle très modestement et très humblement Moi. Ça a été écrit avec Marc-André Lucier et également dans le courant de l'émission. La rentrée littéraire chez Audiolib, ça c'est une autre façon d'écouter des livres. Certes, ce n'est pas gratuit, mais c'est intéressant pour toutes les nouveautés qui sortent en Europe. Pour l'instant, on va écouter un extrait d'une chanson qui va nous amener vers Laurent Dubois, directeur général de la Fondation Lire pour Réussir. Vous savez comment la lecture me tient à cœur, alors j'avais envie de pouvoir parler avec Monsieur Laurent Dubois. Mais avant, ce petit bout de chanson que je lui dédie. Que j'aime cette petite chanson. Oui, le son n'était pas terrible, vous avez entendu, ça craquait un peu, mais j'avais envie de vous présenter cet extrait interprété par l'Académie de Sainte-Thérèse. C'est une académie en France et ça s'appelle À ma bibliothèque. Et évidemment, je dédiais ça à Laurent Dubois, directeur général de la Fondation Lire pour Réussir. Bonjour, monsieur Dubois.
Bonjour.
Hein, c'était vraiment la chanson appropriée, ça, hein?
Ça me semble parfait.
Alors, Lire pour Réussir, c'est une fondation. On va regarder un petit peu ensemble tout ce que vous apportez, mais je pense que le titre, tout est là. Lire pour Réussir, c'est né de ce souci de faire aimer la lecture à nos enfants.
Oui, mais merci parce que c'est un beau compliment de nous dire que tout est dans le titre parce qu'on était assez content de donner ce nom-là à la fondation. C'est né d'une journée de colloque qui a eu lieu en septembre l'année dernière, et qui s'appelait la journée Lire pour réussir, et qui s'est penchée sur la question de la littératie au Québec, donc du niveau de littératie des Québécois et de ce qui pouvait être mis en place pour faire en sorte que les Québécois adoptent de meilleurs comportements par rapport à la lecture et augmentent leurs compétences en littératie.
Et vous dites, je suis allée voir votre site internet, je vais vous faire un autre compliment qui est vraiment très bien fait parce que très clair, qu'un bon niveau en littératie permet de s'équiper de tous les outils pour prendre sa place dans la société. Est-ce que c'est l'argument majeur, ça, pour ramener les gens et surtout nos jeunes à la lecture?
Oui, pour nous, c'est l'argument majeur. C'est-à-dire qu'on on part aussi du constat que... On a remarqué qu'à partir de 15-16 ans, par exemple, il y a une rupture chez les jeunes de la lecture pour le plaisir. Donc on s'est intéressé à cette question, on s'est dit mais pourquoi? On a plusieurs arguments. D'abord, l'adolescence en tant que telle est un facteur, puisque on est peut-être un petit peu plus paresseux quand on est adolescent pour faire des choses ou de s'arrêter, pour prendre son temps pour lire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une concurrence qui se fait avec les tablettes, les téléphones, les réseaux sociaux. Et donc de là, on se dit que oui, on s'aperçoit que les jeunes adultes, les adolescents, puis maintenant même les adultes, lisent moins, ont moins de... temps offert à la lecture profonde, la lecture un peu plus intense, et on se contente de lectures assez immédiates, des dépêches, des publications, des posts, posts en 140 caractères, et ça c'est pour nous un problème pour effectivement détecter de la bonne information, et c'est pour ça qu'on pense que la lecture devrait permettre aux gens de s'élever et d'avoir un regard critique et de s'ouvrir au monde et de se construire des argumentaires et non pas uniquement des opinions.
Oui, parce qu'encourager la prise de parole, hein, bizarrement, c'est la lecture qui favorise ça aussi.
Oui, bah ça peut. En tout cas, c'est un bon levier. On a des clubs de lecture où les gens lisent tous les mêmes livres, la même sélection et en débattent. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on est capable d'avoir des débats construits sur des œuvres littéraires et d'échanger avec des argumentaires qui tiennent la route dans les deux camps. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on en a tous fait l'expérience.
Bien sûr.
Le niveau de débat est extrêmement faible. On tombe très vite dans des opinions, des insultes et de la menace.
Oui. Laurent Dubois, quels sont les projets de la Fondation?
Alors là, j'ai parlé des clubs, des rendez-vous, donc des rendez-vous du premier roman. Donc on met en place, on a une vingtaine de clubs à travers le Québec, de lecteurs qui reçoivent une sélection de premiers romans, donc ça veut dire des premiers ouvrages de jeunes écrivains, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs.
Oui.
Et puis ces gens-là lisent tous les livres à travers le Québec et en débattent et choisissent le lauréat parmi cette sélection. Donc il y a un lauréat québécois, puis il y a également un lauréat français, puisque c'est une collaboration.
D'accord, les prix seront mis. Ah oui. J'avais déjà animé une réunion au Métropolis Bleu, une rencontre avec les gens de Chambéry, hein, justement. Exactement. Qui font des choses fantastiques pour la lecture. Vous avez aussi une ligue d'improvisation littéraire. Qu'est-ce que c'est?
Ben là, c'est l'idée, donc c'est un spectacle, la ligue d'improvisation littéraire, c'est des écrivains qui viennent lire des extraits de leurs œuvres et qui confient ça à des improvisateurs de renommée internationale. Et on crée un spectacle spontané, donc on est dans l'écriture spontanée par rapport à des livres qui existent déjà. Donc le but, c'est pas de raconter la suite du livre, c'est bien de partir de ce qu'on entend pour en faire quelque chose d'autre. L'idée qu'on a, nous, derrière ça, c'est que on veut trouver tous les chemins possibles qui ramènent les gens vers le livre.
Oui.
On sait que des fois, dire à quelqu'un « lis un livre, lis ce livre », ça fait un peu peur. Le livre, c'est un objet un peu sacré. Pour certains, dans leur tête aussi, le livre est égal à l'école, et donc c'est un mauvais souvenir.
Oui.
Et donc là, on a un spectacle où finalement, on est dans l'oralité.
Oui.
Et les gens sortent de ce spectacle en se disant « Ah mon Dieu, j'ai envie d'aller lire le livre pour voir si les comédiens ont finalement été fidèles ou pas à ce que l'auteur a voulu écrire. »
Vous avez aussi un concours, BookTube, Livre-toi.
Oui.
Les adolescents parlent de livres en vidéo.
Exactement. Ça, c'est un partenariat avec l'Association nationale des éditeurs de livres, la NEL, qu'on appuie, mais c'est eux les initiateurs de ce projet. Ça, c'est assez fabuleux parce que c'est effectivement l'idée de dire à des adolescents utiliser la vidéo, le média, YouTube, pour vous filmer en train de nous parler du livre que vous avez aimé. Diffusez-le, ça donnera l'envie à d'autres de lire.
Les ados parlent aux ados. Hein?
Exactement.
Quoi de mieux qu'un adolescent pour dire à un autre adolescent, tu devrais lire ça.
Ben oui.
Et dites-moi, monsieur Dubois, vous savez qu'à cette émission-là, je fais un petit peu une entorse. Parce qu'en principe, à l'émission des livres plein les oreilles, on ne parle que de livres audio.
Oui.
Mais je me dis, nous ici, les livres, on les lit par les oreilles, donc. Hein. Et je me disais, ce serait peut-être sympa aussi d'intégrer un volet lecture audio. Vous savez que ça augmente partout, ça, en ce moment. On en parle de plus en plus en France. Ils parlent même de faire un salon en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous ici, à Vues et Voix, pour vous y aider?
Ben écoutez, c'est à creuser, c'est sûr
qu'on
a cette sensibilité-là. Par exemple, donc vous savez que la Fondation Lire pour Réussir est associée de manière très proche à l'UNEC, l'Union des écrivains québécois, qui avait, il y a quelques années, lancé le site opuscule.ca avec aujourd'hui la possibilité d'écouter en audio tous les textes que nos écrivains ont publié, donc des textes inédits qui ont été écrits pour la littérature mobile et qui ont été enregistrés en studio par les écrivains eux-mêmes. Et donc, on est en train de construire une audiothèque sur ce site. Donc, c'est vrai qu'on a cette sensibilité-là et il faut qu'on creuse cette
aspect. Oui, absolument.
Avec des professionnels et avec des gens qui s'y connaissent vraiment pour qu'on garantisse que ça puisse
se faire.
Oui.
Ça nous ferait en tout cas très, très plaisir. Je voudrais aussi qu'on signale assez rapidement que vous avez de magnifiques ambassadeurs, entre autres Claudia Larochelle, qui est notre porte-parole ici, à Vues et Voix.
Ah oui, elle est formidable.
Et puis vous avez Tristan Malavoie, en tout cas je vais en oublier, mais...
On en a 40, donc
vous en avez une quarantaine.
De la littérature jeunesse, Alex A. ou India Desjardins pour une littérature...
Voilà.
Et puis là, Gilles Vigneault qui nous a rejoint, là, c'est comme le cadeau.
Oh bah alors là, c'est la cerise sur le sundae littéraire.
On est bien d'accord.
Alors Laurent Dubois, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue. Je rappelle peut-être aux gens qui nous écoutent que vous pouvez évidemment en savoir beaucoup plus sur le sujet en allant consulter le site, et c'est simplement, comment vous l'appelez votre site
lire-réussir.org.
Simplement.
Tout simplement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir Laurent Dubois.
Ils sont là tranquilles, sans la moindre ville, lorsque l'on panique et que mort de trac, tout le monde claque devant le public. Avec un air sombre, ils guettent dans l'ombre, armés d'un stylo. Quoi qu'on dise ou fasse de notre cuirasse, le moindre défaut, de gauche ou de droite, ce que l'on mandate pour faire un papier. Non, je le présume, pas tremper leur plume dans un bénitier. Et que peut-on faire, pauvre peau de terre, vulnérable et seule, lorsque l'on en crève, rengainer ses rêves et fermer sa gueule. La critique, la critique. On a beau dire au fond que l'on s'en contrefout. La critique vous détruit le moral et vous en fout un coup. Frappé de nécrose en lisant ces proses qui, sauf exception, ressemblent aux surprises à des entreprises de démolition. Si certains paniquent, neurasthéniques consultent des psys. D'autres se libèrent, remuent ciel et terre, et tant Dieu merci. Du genre opiniâtre, sont prêts à se battre, et pour être mieux, cherche un autre style, change de profil, plante des cheveux. Ça ne change guère, il reste une guerre de papier et journal. Fait de mots qui touchent, là où ça fait mouche, là où ça fait mal. La critique, on a beau dire au fond que l'on s'en contrefout. La critique, critique vous détruit le moral et vous envoie.
Avez-vous remarqué, hein, c'est un petit peu la bohème, hein, c'est pas loin, hein, c'est quand même assez proche. Bon, c'est normal, c'est du Charles Aznavour, et puis à un moment donné, tous les compositeurs de chansons pourront vous le dire, on utilise un petit peu, non pas les mêmes trucs, mais les mêmes successions d'accords. Tiens, parlant de critique, une voix que vous connaissez bien, que vous avez aimée pour les uns, détestée pour d'autres.
L'apprentissage du violoncelle est plus exigeant et plus difficile que, disons, celui du Nintendo, mais ils sont quand même nombreux à écorcher modérément les oreilles de leurs parents afin de maîtriser le noble instrument.
Un critique et un journaliste du Petit Journal, René Homierois.
Je trouvais que j'avais une face à claque. Ce que je continue à trouver d'ailleurs que j'ai, mais la barbe et les lunettes ont un peu atténué ça.
Ce serait peut-être une bonne idée de s'expliquer, non pas mutuellement parce que je suis le seul à parler dans cette histoire-là, mais d'expliquer qu'est-ce que c'est pour moi qu'un critique, comment je considère cette chose-là.
Moi, je suis un spectateur professionnel, c'est ça, Major?
C'est quelqu'un qui, de par son métier, est appelé à voir beaucoup plus de spectacles que la moyenne ordinaire des spectateurs et qui, de là,
dit ce qu'on aurait senti devant, je sais pas, un livre, un film, n'importe quoi.
Qui connaît mieux, forcément, le milieu qu'il fréquente constamment.
Quand on embarque dans ce métier-là, il faut savoir que les gens vont avoir envie de nous voir morts, et c'est dans l'ordre des choses, et c'est normal, car rien n'est pire que de se faire critiquer. Et il n'y a rien dans ce métier-là qui me déplaît.
Critique qui n'est pas infaillible. Le spectateur professionnel non plus.
Pas dire que quelque chose est bon quand on croit que c'est vilain, surtout pas quand on est payé pour le faire.
Moi, je vous assure, ce qui s'y passe, c'est scato. Moi, j'ai trouvé ça insupportable.
Et oui, peut-être la voix du critique la plus célèbre ici au Québec. Écoutez, j'ai essayé autant comme autant de recevoir René Homierois. Ça n'a pas été possible, mais je me suis dit, bah, écoute, tant pis, on va quand même parler de ce livre parce qu'il est disponible, moi, René Homierois, gratuitement via le SQLA. Il a été écrit avec la complicité de Marc-André Lucier, et comme je l'ai fait pour tous les livres et pour tous les auteurs que j'ai pu recevoir, je l'ai lu de bout en bout et j'ai envie de vous en lire quelques extraits pour vous donner peut-être l'envie de lire ce bouquin. Par exemple, au sujet du gars de Laval, parce qu'il est devenu un gars de Laval, René Homierois, mais pas forcément parce qu'il le voulait. Il nous raconte en page 13, d'ailleurs c'est Marc-André Lucier qui raconte à ce moment-là, que René passe les trois premières années de sa vie dans un logement de la rue Berry au cœur de Montréal. Un avis médical le forcera toutefois le clan à déménager. Le médecin de famille, comme tous ceux qui exerçaient de nobles professions, avait beaucoup d'emprise sur ses ouailles. À une Rolande, sa maman inquiète, il décrète que son fils a un petit problème au genou. Et que René risquait de gros ennuis s'il continuait à courir sur des trottoirs en ciment. Du coup, le docteur conseille à sa cliente de déménager dans un milieu de vie plus sain où le garçonnet pourrait gambader dans les prés à sa guise et en toute sécurité et très obéissante. La famille a donc pris la direction de Laval. Vous voyez, hein, à quoi ça tient tout d'un coup les choses. À propos du théâtre, je vais en page 63 ici où il parle des belles sœurs et il dit au Homierois, j'avais apprécié les belles-sœurs à sa création, mais pour moi le vrai choc que j'ai ressenti pour une pièce de Tremblay est survenu dans les années 80 grâce à Albertine en cinq temps. Je me souviens avoir vu cette pièce avec Suzanne Lévesque. Nous étions tellement émus, tellement bouleversés que nous n'avions plus conscience de l'environnement dans lequel nous étions et nous nous sommes même engagés en voiture sur la rue Saint-Denis en sens contraire de la circulation. Vous voyez, on a beau être critique, on peut aussi être ému par ce qu'on peut voir ou entendre. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Maurice? Oui, encore un petit peu de temps. J'ai envie, justement, puisqu'on parle de Michel Tremblay, de vous parler de la bande des Six, parce que quand même, ça a été une figure éminemment importante de ce groupe de critiques avec Nathalie Petrovski et entre autres avec Georges Hébert-Germain, qui n'était vraiment pas le plus dur de tous. À tel point, c'est que à la première émission, lorsqu'ils se sont retrouvés tous en réunion, Georges Hébert-Germain devait parler des chroniques du plateau Mont-Royal et ou plutôt du premier quartier de la Lune qui était le plus récent, Michel Tremblay. Il s'avère que Georges Hébert-Germain a détesté ce livre. Alors tous les autres, tous plus méchants les uns que les autres, lui ont dit, ben regarde, il faut que t'en parles, il faut que tu le dises. Puis là, Hébert Germain dit, mais non, mais je peux pas descendre Michel Tremblay comme ça, en direct à la télé. Et puis là, ils se sont tous dit, oh yes, une belle petite controverse pour la première de l'émission, ça ce serait chouette. Alors du coup, ils ont vraiment insisté et Georges Hébert Germain a dit, d'accord, sauf qu'il s'attendait pas à ce qu'il en mette autant. Et au souvenir de René, Michel Tremblay était tétanisé après cet échange parce qu'il a vraiment dit que c'était nul. D'autant qu'au Québec, un pays qui n'aime pas la chicane, ce genre de discussion est extrêmement rare à la télévision. Alors que quelqu'un comme Georges Hébert, qui aimait presque tout, ait l'occasion de discuter face à face avec le créateur d'une œuvre qu'il n'avait pas appréciée, constituait pourtant, aux yeux de René, une idée aussi originale que formidable. Dès son entrée, dès son arrivée, la bande des Six a fait parler d'elle en suscitant la polémique et puis ben, on se souvient de toutes les années qui ont suivi. Au sujet de la chanson, il aime beaucoup ce qui est surtout très, très classique. Il y a des chansons qui l'ont littéralement laissé sans voix. C'est notamment le cas de La vie de factory que nous chante Clémence.
J'suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seule que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas un sujet à chanson.
Oui, il a raison, hein, René au miroir. Quelle belle chanson que La vie de factory. Je ne sais pas si vous connaissez la version de... Voilà, et son nom va m'échapper. Ça va me revenir, je vais penser à autre chose et je vous la dirai un petit peu plus tard. Parce que là, pour l'instant, la fille, elle a un blanc de mémoire. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on aime vieillir dans ce temps-là. Alors, je suis toujours avec moi, de René Aumirois, qui n'est pas présent. Je n'ai su qu'hier, d'ailleurs, qu'il ne viendrait pas. Mais qui a quand même signé cet excellent bouquin avec la complicité de Marc-André Lucier. Au sujet de la littérature, tiens, des livres. Évidemment, il a beaucoup de mal à vivre sans les livres. Et il raconte que quand il était petit, et ça c'est Marc-André Lucier qui parle, Roland réunissait souvent ses deux aînés, René et Micheline, pour les emmener en voyage, disait-elle. Elle s'installait dans un gros fauteuil, ses deux enfants assis à ses pieds, et elle leur annonçait la destination du jour. Elle disait par exemple « Aujourd'hui, on s'en va en Chine ». Et là, elle attaquait la lecture à voix haute du passage encyclopédique qu'elle avait choisi, car oui, il s'agissait bien d'une encyclopédie qu'elle allait sortir de leur bibliothèque. Aux oreilles de René, sa mère était une bonne conteuse. Il garde encore aujourd'hui un souvenir ému de ces moments privilégiés qui ont stimulé sa curiosité et son imagination. Il parle aussi du fait qu'il ne lit les livres qu'en version originale, sauf quand bien sûr il ne comprend rien à la langue d'origine, mais par exemple tout ce qui s'est écrit en anglais, il a tout lu en anglais. Et il a souvent posé la question, est-ce que traduire c'est trahir ? Il répond, il arrive parfois que l'âme et la sensibilité d'un traducteur soient complètement en phase avec celle de l'auteur, et même les enrichissent. Quand je lis les livres de Michael Connelly dans la langue d'origine, je les trouve mauvais, au point où je suis incapable de me rendre jusqu'au bout. Alors que quand il les lit en version française, finalement, ça passe. Vous voulez savoir quel est l'un de ses livres préférés ? Eh bien, il dit, lui, être tombé raide mort le jour où, à la suggestion d'une copine vivante à Los Angeles, il a lu « The World According to Garp », c'est-à-dire « Le monde selon Garp », le roman, bien sûr, très célèbre de John Irving. Et puis, pour finir peut-être avec ce livre, « Moi », de René Aubien-Roy, quelques mots sur la radio publique. Tiens, lui qui l'a fréquenté si longtemps, vous étiez très nombreux à vous réveiller au son de « C'est bien meilleur » le matin. Eh bien, au sujet de la radio publique, il écrit ceci, nous sommes en page à ce moment-là 222. « Quant à la radio privée, j'ai dit qu'il allait parler de la radio publique, ça commence bien. À l'époque, il dit en ce qui concerne la radio privée qu'il ne l'écoute pas. Ça veut dire qu'on sait qu'il écoute que la radio publique. À l'époque où j'animais C'est bien meilleur le matin, je l'ai fait à l'occasion, histoire d'entendre un peu la concurrence. Et là, il dit entre parenthèses, Paul Arcan est excellent. Mais plus maintenant. Non pas que Paul Arcan est devenu mauvais, mais il n'écoute plus du tout ça le matin. Il dit « Je n'écoute jamais les radios poubelles non plus, sauf quand un des animateurs pète une coche et que l'extrait devient viral. La radio reste un instrument puissant qu'il faut utiliser avec précaution, de façon responsable. J'ose croire que ce genre d'émission qu'on retrouve beaucoup à Québec ne prêche qu'aux convertis. » Mais le discours qu'on y entend a un effet d'entraînement dans les régions aussi. J'ai toujours envie d'envoyer paître, dit toujours René Aubien-Roy, ceux qui remettent en cause, toujours pour de mauvaises raisons, l'existence même d'une radio publique. Elle joue un rôle essentiel dans une société comme la nôtre. Ça aurait été bien quand même hein, qu'il vienne dans nos studios. J'aurais bien aimé qu'il nous dise ce qu'il pensait de Canal M et de la vocation de Canal M. Elle est essentielle aussi. Je pense. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des livres plein les oreilles » sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix, anciennement la Magnétothèque. C'est Clotilde Seille qui est au micro et qui vous retrouve dans quelques secondes. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors en seconde partie de cette émission, je vais vous faire découvrir, à moins que vous ne connaissiez déjà cette plateforme qui s'appelle Audiolib, qui est une plateforme francophone, française même, où vous pouvez entre autres entendre et découvrir des livres qui sont nouvellement sortis. Donc ça c'est un intérêt. Le désintérêt peut-être pour les uns et les autres, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas gratuite. Mais bon, je me suis dit, les personnes non-voyantes sont comme les personnes voyantes. Il y a des fois où on va emprunter un livre à la bibliothèque, puis il y a des fois où on s'en offre un. Vous allez aussi faire connaissance avec une autre bibliothèque, celle de l'association Valentin Ahuy, par l'entremise d'une entrevue que nous a accordée son directeur des affaires internationales, Marco Franc. Et puis on va entendre Gérald Cousineau qui va nous parler de Tangwald, un livre qu'il a lu, qu'il a écouté, et un livre qu'il a adoré. Juste avant qu'on passe au sujet sur Audiolib, je voudrais vous faire entendre un document sonore. Il s'agit d'un poème de Robert Desnos, et c'est pas par hasard si j'ai choisi du Desnos, c'est parce qu'il en sera question dans un livre. Et c'est lu par un jeune garçon, et c'est très touchant. On écoute ensemble Clément.
C'était un bon copain. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non quoi, il avait le faux derrière. C'était un drôle de copain. Quand il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne, à la tienne Étienne, à la tienne mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet. C'était un copain. C'était un bon copain. Robert Desnos.
Oui, Robert Desnos, poète, écrivain, mort en 1945, un mois après que l'armée russe ait libéré le camp de concentration dans lequel il était retenu depuis quelques années. Alors, avant de vous parler d'un livre que j'ai trouvé chez Audiolib et qui pourrait fort vous intéresser, d'abord, Audiolib, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison d'édition qui a été fondée en 2008. Une maison d'édition qui essaie de renouveler l'image du livre audio de langue française et qui, et c'est ce qu'ils nous disent sur leur site internet, donne envie d'essayer cette nouvelle forme de lecture à un très large public grâce à un choix de livres actuels parmi les plus lus, à des lecteurs de grande qualité, un format moderne, un prix attractif également. Les passionnés de livres audio vont s'y retrouver avec Audiolib. L'équipe à la tête de ça, nous sommes convaincus que ce mode de lecture, pourtant une très ancienne pratique, n'en est qu'à ses débuts en France. C'est ce que nous pensons également ici au Québec et notamment dans les murs de Vues et Voix. C'est une aventure exceptionnelle de développer une autre façon de lire auprès d'un nouveau public à notre époque de loisirs nomades, en jouant également sur les nouvelles technologies. Parce que les mots écrits s'enrichissent d'une autre façon, d'une autre dimension artistique, vivante, incarnée, qui fait appel à un sens très subtil, l'ouïe, ils développent des émotions de façon étonnante et créent un espace imaginaire différent de celui qu'on se crée seul, en silence. Valérie Lévy-Soussan, qui est présidente directrice générale, écrit « Essayez et vous serez surpris ». Alors évidemment, vous, personne non-voyante, qui écoutez régulièrement les livres qu'on vous suggère ici ou d'autres, vous savez exactement de quoi on parle. Je voudrais vous faire écouter deux extraits de nouveautés en audio qu'on peut trouver chez Audiolib. D'abord, « La légende d'un dormeur éveillé » de Gaëlle Nohant. Nous sommes dans le Montparnasse des années folles, au Paris de l'occupation, et Gaël Nohant ressuscite un héros incandescent, généreux et libre en Robert Desnos. Ses amis s'appelaient Jacques Prévert, Aragon, Jean-Louis Barrault, Pablo Neruda. Poète, amoureux, résistant, féroce et blagueur, il croquait la vie, il aimait Yuki et la liberté à en mourir. Ce roman, qui résonne comme un hymne à l'amour et à l'amitié, à la révolte et à la joie de vivre, c'est également l'histoire d'une rencontre inoubliable. Je vous en propose un extrait de ce livre qu'on trouve chez Audiolib, tel que vous l'entendrez.
Bonsoir, je suis Yuki Fujita. Êtes-vous l'un de ces maudits surréalistes qui m'empêchent de dormir depuis 3 semaines ? Vos textes, plus fous les uns que les autres, me volent mes rares heures de sommeil, précise-t-elle en riant. Et mon mari se plaint, mais tout est de sa faute, c'est lui qui m'a parlé de vous. Le fameux Desnos, murmure la jeune femme d'un air malicieux. Il paraît que vous vous cachiez dans un pays lointain. Vous avez des yeux d'huître, c'est joli. On vous l'a déjà dit ? On ne lui a jamais dit, des yeux d'huître. Pourquoi pas ? Ses yeux étranges, où se mêlent le bleu, le vert et le gris, ont des reflets de la mer quand elle se casse sur les falaises crayeuses, partant de pluie. Ce sont des miroirs qui débordent pour embrasser l'infini. Des yeux qui aiment, caressent et pleurent. Des yeux ouverts derrière les paupières. Des yeux de poète. Je vous lis, Robert Desnos. Continue Yuki en lui lançant un regard canaille. J'aime beaucoup votre Louise Lam. Et ce corsaire sanglot, quel tempérament! Cette électricité entre eux est très réussie. Vous êtes-vous procuré les passages censurés ? Demande Robert qui éprouve l'envie de la choquer, comme un enfant tire les nattes d'une jolie petite fille. Marcel lui explique que pour faire paraître la liberté ou l'amour, malgré la censure, Robert a dû couper les passages érotiques. Le lecteur peut les obtenir en librairie en échange d'un bon.
Et puis j'ai envie de vous présenter aussi un autre livre, et ça aussi c'est une nouveauté, alors ça n'arrivera pas ici avant un sacré bon bout de temps. Ça s'appelle « J'ai perdu Albert ». C'est un livre écrit par Didier Van Kovelaert et c'est lu par Didier Van Kovelaert chez Audiolib aussi. Alors un résumé du livre audio tel qu'on nous le présente. « Je suis la voyante la plus en vue du pays et depuis hier, je ne vois plus rien ». Pourquoi, après 25 ans de cohabitation, l'esprit qui hante Chloé l'a-t-il soudain quitté pour sauter dans la tête d'un garçon de café, Zach, apiculteur à la dérive qui ne croit en rien ? La situation est totalement invivable pour elle comme pour lui, d'autant que cet esprit qui s'est mis à le bombarder d'informations capitales et pressantes n'est autre qu'Albert Einstein. Dans une comédie romantique, haletante, où la spiritualité s'attaque aux enjeux planétaires, Didier Van Kovelaert invente avec bonheur une nouvelle forme de triangle amoureux. Sachez qu'il y a eu adaptation cinématographique de ce roman de Didier Van Kovelaert avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier et Josiane Balasco. C'est sorti le 12 septembre, c'est-à-dire, au témoin d'un doute, ça se sera diffusé le combien déjà, le 20 à peu près ? Me semble-t-il, je ne me souviens. Le 27, donc c'est sorti en France il y a maintenant 2 semaines. Est-ce que ça arrivera chez nous ? Je ne suis pas sûr, mais en attendant, pourquoi ne pas nous délecter d'un extrait de ce livre « J'ai perdu Albert » lu par son auteur Didier Van Kovelaert.
J'ai perdu Albert de Didier Van Kovelaert, lu par l'auteur. Dominant le malaise, je redresse in extremis mon plateau chargé de verres à pied et d'assiettes sales, et je regarde la grande blonde qui, secouée de soubresauts, a l'air aussi sonnée que moi. « Garçon !» Je pivote vers la 38. Derrière son palmier en plastique, le touriste à Bermuda me tend son addition comme un os à un chien. Il répète ma raison sociale d'une voix si forte que je fonce l'encaisser avant que ça n'alerte la gérante. « Vous êtes sourd ou quoi ? C'était trop cuit en plus !» Les orteils crispés pour garder le sourire, je lui rends sa monnaie en essuyant ses critiques, puis je me retourne vers la 15. La blonde a disparu. Je cherche autour de moi, je la vois qui s'éloigne dans la galerie en direction des taxis, coursée par un type en impair qui lui tend le croissant qu'il a pris dans la corbeille du comptoir. « On peut commander ?» Le groupe de cadres en séminaire à la 13. J'acquiesce d'un signe. Je vais débarrasser mon plateau et je reviens, tablette en main. Je me sens bien à nouveau. Enfin, bien normal, quoi. Les pieds gonflés, la tête lourde et le cœur vide.
De tout et de rien, je mangerai n'importe quoi. J'ai soif, soif, soif de thé et de glace dans un grand verre en plexiglas.
Madame, vous désirez ?
Je ne sais plus, je suis un peu perdu, il faudrait m'apporter le menu.
Voilà, voilà. Nous avons un beau bar ou bien du barbeau.
Ah, 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 oh oui.
Écaillé, oh les cahiers.
Ces petits plats, ah, sont exquis.
De la truite au chou vert.
Je ne sais pas à quoi choisir.
De la dorade dorée, orable, adorable.
Allez, on envoie la suite, c'est parti.
Du saumon cuit sur la commode. Des moules vraiment au poil. De la carpe de la muette, du merlan enchanteur, du saumon cuit sur la commode, des moules vraiment au poil, du loup ingurgité par un phoque et ensuite régurgité. La esquimaude, connue sous le nom de loup phoque. En fait, non, on n'a pas de poisson car il n'est pas né. Mais nous avons aussi d'excellentes viandes. Chèvre-thym abattu à la chevrotine en provenance de Corse. De l'entrecôte d'Azur. De la côte de bord de Saint-Tropez.
Il y a trop de choix. J'ai faim, 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 tout a l'air divin. J'hésite entre tous ces plats. J'ai faim, 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 mais je ne sais pas. Arrêtez, ne me tentez pas. Ah, 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 oh oui.
De la bourse d'ours à l'ail d'Ambert.
Ces petits plats, ah, sont exquis.
Du singe enivré cuit au gabarari.
Ah, ah, ah.
Du gorille au mori et aux champignons sur rute.
Y'a trop de choix.
Ensuite, des fromages tendres et têtes de bois. Des fromages de Galilée accompagnés, devinez, de vin.
Je ne sais pas à quoi
et
choisir.
Notre fameux dessert de gobie,
y a trop de choix.
Au thé néré.
Le restaurant par Lizzie Ling. Pour faire suite à cet extrait que vous avez pu entendre par la voix même de Didier Van Kovelaert, c'est paru chez Audiolib. J'ai perdu Albert. Eh bien moi, j'ai retrouvé Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Bon, vous savez que j'ai pris l'habitude hein, cette année de ne pas parler que des livres qu'on peut retrouver au SQLA parce que je me dis que ben, tout le monde a des oreilles, donc pourquoi ne pas aussi aller peut-être écouter des livres gratuitement chez d'autres ou encore les acheter après tout, comme notamment celui de M. Van Kovelaert. Mais vous, le livre dont vous nous parlez, il est bel et bien au SQLA.
Oui, il s'agit de Tangvald, d'un auteur que je ne connaissais pas. En fait, c'est un dramaturge québécois qui s'appelle Olivier Kemeid, K-E-M-E-I-D. Et ce monsieur ben, est montréalais. Il dirige le théâtre de Quatre-Sous à Montréal.
Mm-hmm.
Donc, il a écrit des pièces de théâtre. Mais ce livre, Tangvald, c'est son premier roman. Et je mets roman entre guillemets. Hein, parce que c'est un livre passionnant, mais très, très, très curieux.
Ah.
Alors Tangvald, c'était en fait c'était Peter Tangvald, marin ou navigateur, je préfère dire navigateur
oui.
Norvégien. Alors ce monsieur Kemeid, il a 11 ans quand il rencontre en avril 1986 ce monsieur donc Peter Tangvald et son fils Thomas qui a une douzaine d'années. Il les rencontre où? Eh bien à Porto Rico. Parce que ce monsieur Kemeid est en train de faire le tour du monde avec sa famille, avec son père, sa mère, etc. Et là, qui est-ce qu'il voit à Porto Rico? Eh bien, ce monsieur, ce marin aux yeux bleus et son fils. Et là, il apprend, bien sûr, il apprend la vie incroyable de ce monsieur. Alors, ils vont regarder des diapositives et là, ils découvrent ce phénomène qu'est monsieur Tangvald. Alors, Tangvald, c'est un monsieur qui était tout à fait inadapté à la vie en société, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout inadapté au monde du travail. Lui, là, 5 jours de travail, les week-ends, non, il ne voulait rien savoir de ça. Alors, il est parti sur les mers après la Deuxième Guerre mondiale, et là, il a comme rompu, littéralement, avec la civilisation. Il a passé presque toute sa vie, après la Deuxième Guerre mondiale, sur l'eau.
Ah, oui.
Il s'est bâti un bateau, il est parti, il a eu, tenez-vous bien, 7 épouses. Et d'ailleurs, dans le... La page de couverture, on dit hein? Il a épousé et épuisé cette femme. Eh ben, si vous lisez le livre, vous allez voir que oui. D'ailleurs, deux de ces femmes, malheureusement, vont périr en mer. L'une de façon... enfin, l'une est carrément assassinée par des pirates au large de des Philippines et l'autre meurt dans un accident du voilier. Là.
Mm-hmm.
Donc,
mm-hmm.
Cette femme, cette épouse et les chapitres portent justement les noms des 7 femmes.
Non.
Donc, elle le raconte. Elle raconte, en fait, c'est Kemeid qui raconte la vie de Tangvald, mais par l'entremise de ses 7 épouses.
D'accord.
Eh bien, c'est absolument passionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé au point de départ, c'est qu'il cite le philosophe Michel Foucault. Michel Foucault, dans les années 60, avait dit que la raison, dans l'imaginaire occidental, était associée à la terre ferme, alors que la déraison, elle, était, bien sûr, aquatique. Eh bien, ça, ça colle tout à fait au personnage de Tangbal.
Il en est mort, finalement, je pense. Hein?
Oh, oui, il est mort.
Il est mort sur l'eau?
En mer, comme son fils, d'ailleurs, Thomas, qui lui aussi va mourir en mer en 2014. Mais,
bon, en quelle année, lui, il est mort? Je m'excuse, je vous ai interrompu.
2014, donc il y a 4 ans maintenant que Thomas, et c'est d'ailleurs la mort du fils, la mort de Thomas, qui a décidé qu'Emmed à poursuivre son écriture, okay, et accélérer l'écriture. Parce qu'il compare ces deux-là à Ulysse et Télémaque. Alors là, on est en pleine mythologie. Hein. Tangval, c'était un misanthrope. Vous savez que j'ai un fait pour les misanthropes. Je voulais peut-être vous dire.
En étant
moi-même, je suis attiré par les misanthropes.
Mais, oui.
Mais un misanthrope qui a rompu avec le monde, oui. Mais attention, pas avec l'amour. La preuve, il a eu cette femme. Donc, il n'a pas rompu avec l'amour, ni avec la famille. Mais il fait tout pour ne pas mettre pied à terre, car après la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit, il a vraiment été écœuré, entre guillemets, de la civilisation, donc il l'a fui. Eh bien, ce livre-là est passionnant, passionnant.
Et puis, en plus, écrit par Olivier Quemède, effectivement, du 4 sous. Permettez, mon cher Gérald, ne vais pas vous laisser partir. J'ai extrait quelques extraits. Oh, que c'est laid.
Mais c'est clair.
Oh, que c'est laid, mais ça fait rien. Alors, quelques extraits, donc. Tangvald se fout de la Suède, comme il se foutra de toutes les destinations de ce globe dans les années à venir.
Ouais.
Il n'y a pas pire touriste que Peter Tangvald. Les ruines l'emmerdent, les villes le stressent, les paysages bucoliques l'ennuient. Il y a bien quelques villages tahitiens ou créoles qui vont l'égayer quelques jours, le temps de coucher avec des filles faciles, de s'approvisionner ou d'aller voir une cascade ou un lagon, mais après, fissa, on s'en va, tout est pareil partout. Pas franchement sympathique, hein, le bonhomme.
Non, c'est vrai, mais moi, il ne m'a plus... En fait, je parlais de déraison tout à l'heure. C'est le déraisonnable pur.
Oui.
Mais ça sort tellement de l'ordinaire qu'on se plaît, on se prend à rêver. En même temps, on sait bien qu'on ne vivra jamais une vie comme ça. D'ailleurs, Kemet dit lui-même qu'il est étonné qu'un homme puisse vivre une vie pareille.
Mm-hmm.
Mais moi, je me suis pris à rêver. Mais il faut en assumer les conséquences. Et donc, il rejette le monde.
Le monde humain et le monde animal. Un autre extrait. Bien qu'il soit de coutume chez les marins de laisser calmement atterrir l'oiseau de mer exténué sur le havre de paix que constitue l'embarcation fouettée par les vagues périlleuses, Tangvald se refuse de donner asile. Pour lui, ses sacs à plumes peuvent poser leurs dernières grâces et flottant sur n'importe quelle crête liquide. Que ferait-il, demande-t-il, si je n'étais pas là ? Pourquoi venir m'emmerder littéralement en plein océan ? Et une nuit, l'un d'eux jaillit au visage de Tangvald, tandis que celui-ci réglait ses voiles sur le pont, faillit en être jeté par-dessus bord et dès lors se jura de couper, si ce n'est leur tête, du moins leurs ailes. Aïe, aïe ! Vraiment pas plaisant, le bonhomme. Bon !
Ah non, vraiment un bonhomme. Vous savez qu'il avait horreur quand le... Enfin, il ne voulait surtout pas être comme tout le monde. Alors, on comprend très vite, dès les premières pages, on comprend très vite qu'il n'était pas comme tout le monde.
Alors, allez tanguer avec ce Tangvald sur son bateau, livre d'Olivier Quemède, K-E-M-E-I-D, présenté aujourd'hui pour nous par Gérald Cousineau. À bientôt, Gérald.
Alors, comment dirais-je pour terminer, cherchant une expression marine, mais ça ne me vient pas, c'est pas grave.
Ben, bon vent!
Bon, mais bien sûr!
Bon vent! Allez, salut! Où peut-on se procurer des livres gratuitement, des livres audio gratuitement, ailleurs qu'au SQLA? Est-ce que ça existe, Madame l'animatrice? Oui, il y a un endroit dont j'ai eu souvent l'occasion de vous parler, et grâce, je voudrais le citer, à Gérard Saint-Denis. Gérard Saint-Denis, à qui je voudrais aujourd'hui, si vous me le permettez, dédier cette émission. Vous avez peut-être remarqué que Gérard brille par son absence depuis le début de saison. Eh bien, je voudrais, s'il vous plaît, qu'au nom de toute l'équipe, et je suis sûre de vous-même, on fasse un gros câlin à Gérard, qui a connu la peine, la grande tristesse de perdre son épouse très rapidement. Elle est partie des suites d'une maladie grave, comme on dit. Mais les choses se sont vraiment précipitées. Alors, Gérard, si tu nous écoutes, on pense à toi et on t'embrasse très fort. Et c'est Gérard qui, depuis des années, me disait « Mais pourquoi on ne parle que du SQLA ? Souvent, les livres arrivent en retard. Est-ce qu'on peut avoir accès à des nouveautés ?» Eh bien oui, grâce notamment à la bibliothèque, à la médiathèque exactement, de l'association Valentin Ahuy. Et je vais vous faire entendre des extraits d'une entrevue que M. Offrant, Michel Offrant, a donné à Michel Poulain. Vous savez que nous avons une émission ici à Canal M qui s'appelle Regards sur le monde, qui est présentée le mercredi à midi. Et dans le cadre de cette émission, bien, on pose nos yeux sur le monde de la non-voyance. Et bien, c'est dans le cadre de cette émission-là qu'on avait reçu Michel Offrant. Voici des extraits. Il nous parle de cette médiathèque où travaillent quand même 3000 bénévoles. Et il nous parle de ces accords de Marrakech qui vont vous permettre d'emprunter des livres dans cette médiathèque et toutes les médiathèques du monde.
Elle a été fondée en 1885. Ça fait un beau bout de temps. Elle a été fondée par M. Maurice de la Cizeranne, qui était un aristocrate. Mais ce monsieur était aveugle. Et ce monsieur, le braille existait déjà, s'était fait transcrire des livres en braille, à la main, par des dames de charité. Mais une fois qu'il avait lu son livre, Monsieur Maurice de la Cizeranne, il ne l'a pas jeté à la poubelle. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ce livre ? Je vais en faire profiter les autres aveugles. Et je vais fonder une bibliothèque braille. Et puis pour lui donner une structure légale, il lui a donné un statut d'association. C'est comme ça que ça a démarré. Et ça a démarré comme ça dans beaucoup de pays dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, par une bibliothèque braille. Et pour lui, l'association Valentin Ahuy devait fournir des services aux personnes aveugles et malvoyantes que les pouvoirs publics n'étaient pas capables de fournir ou pour lesquels ils étaient défaillants. Et c'est comme ça qu'après, les différentes activités se sont greffées là-dessus. Hein, donc la bibliothèque qui est aujourd'hui notre médiathèque, elle a entraîné aussi, je veux dire, la fabrication de livres audio-adaptés. Donc c'est là où on fait la même chose
que vous y voyez.
Les accords de Marrakech, c'est ceux qui permettent d'échanger des livres adaptés au niveau international. Jusqu'à maintenant, un aveugle de Chicago, hein, il ne peut pas emprunter un livre à une bibliothèque du Canada. Mais justement, grâce à un combat qui a duré plus de 10 ans, l'Union mondiale des aveugles a réussi à arracher les accords de Marrakech avec l'assistance de Stevie Wonder, pour transmettre, en dehors des frontières, les livres qui sont enregistrés à un endroit ou à un autre. Alors derrière tout ça, il y a quelque chose de très très important, c'est que pour faire des livres adaptés, vues et voix, doit quand même s'inscrire dans un cadre légal. Normalement, on n'a pas le droit de recopier les ouvrages de quelqu'un. Surtout sans lui payer de droits et surtout sans lui demander la permission. Mmh. Et en plus, on ne demande pas la permission à l'auteur. Mais l'application extrémiste de ces droits faisait que les aveugles n'avaient droit à rien. Alors tant que c'était en braille, personne s'en est vraiment affiché parce que on n'allait pas faire du piratage de livres à partir d'une copie en braille.
Exact.
Bon, à partir du moment où il y a de l'audio, où il y a du numérique, les éditeurs se sont un peu crispés, hein, et donc il a fallu mettre des lois. Selon le pays, ça s'appelle limitation au droit d'auteur, d'autres ça s'appelle exception au handicap, qui autorise des organismes spécialisés agréés à copier les bouquins, les enregistrer, donc Vues et Voix en fait partie, hein, mm-hmm. au Canada, et à les distribuer, évidemment, aux seules personnes qui ont vraiment le handicap de cécité. Hein. Donc, ce que prévoient les accords de Marrakech, c'est de faire, je dirais, justement, une loi d'exception handicap mondiale. Et ça, c'est intéressant. C'est
absolument.
Et c'est ce qui autorise l'échange international. Et l'ONU, dans les conventions CRPD, dit ben, les aveugles ont le droit à la culture.
Voilà, pour mieux connaître cette association Valentin Huy et sa médiathèque, il suffit de faire AVH. AVH.com et vous tombez sur elle. Et c'est ainsi que s'achève l'émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Merci beaucoup à mes invités Laurent Dubois, Marc Offrand et Gérald Cousineau. Merci au technicien Maurice Bolduc. C'était Clotilde Sey qui va vous souhaiter de joyeuses, je veux dire, lectures la semaine prochaine. Et on se retrouve bien sûr pour une autre édition de l'émission des livres plein les oreilles. Salut. Thank you.